Tout à fait, mais c'est un synonyme. Finalement, chacun choisit quel est le terme qui lui convient. Le collectif a pris le terme haut potentiel, haut pour rapide, potentiel parce que quelque chose a développé. Et puis, on l'a mis au pluriel parce qu'il n'y a pas que le potentiel intellectuel.
Et un enfant HP, à haut potentiel, il se caractérise par quoi ? Il y a un QI particulièrement élevé ? Il y a un fonctionnement neurologique qui est particulier ?
Voilà, alors il y a officiellement, c'est un enfant qui a un score de 130 à un test de QI. Maintenant, tout le monde s'entend pour dire que finalement, ce n'est pas suffisant pour définir ce qu'est un enfant à haut potentiel. On sait qu'il y a vraiment un fonctionnement neurologique particulier au niveau du fonctionnement du cerveau. Ça va plus vite, ça touche plus de zones en même temps. Et puis, ça va de la tête aux pieds, comme on l'exprimera ce soir.
À quel moment est-ce qu'on peut détecter ces signes de haut potentiel ? Ça se fait à l'école ? Ça peut déjà se faire avant ?
Alors, les parents vous diront qu'il y a une petite étincelle lumineuse au fond de l'œil de leur enfant dès la naissance. Officiellement, de nouveau, les tests, à partir de 3 ans et demi, on peut dépister un potentiel. L'école, parfois, indique aux parents qu'il faudrait peut-être aller faire un test de QI, parce qu'ils ont une idée que ça pourrait être ça qui pose problème à l'enfant au niveau de sa socialisation. Mais officiellement, c'est aux environs de 3 ans et demi, à partir de cet âge-là, puis après jusqu'à pas d'âge.
Vous parlez de cette lumière au fond des yeux, il y a d'autres signes. On se rend compte, lorsque l'on voit évoluer son enfant, qu'il a un esprit extrêmement vif, qu'il a une intelligence, quoi.
Alors oui, mais une intelligence corporelle aussi, une intelligence globale. Maintenant, ce qui est intéressant dans le monde du haut potentiel, c'est qu'il y a tout et son contraire. Un enfant peut parler très vite, marcher très vite, par exemple. Ou au contraire, une fois il a essayé, il est tombé, ça l'a bloqué, et 2 ans après, il marche toujours pas parce qu'il a l'idée de ce que ça pourrait être problématique. Le cerveau HP a une capacité d'anticiper qui est extraordinaire, hein, qui parfois finalement lui pose problème parce qu'il imagine ce qui pourrait lui arriver. Et ça, c'est plus compliqué à gérer.
Donc des phobies peut-être qui sont plus fréquentes chez ces enfants-là, ou des peurs,
hein. Alors peur, oui, phobie peut-être. Attention, le haut potentiel n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement particulier qui a besoin d'être pris en charge correctement pour que l'enfant puisse se développer harmonieusement. Maintenant, oui, des enfants au potentiel peuvent avoir des phobies, mais c'est pas synonyme de haut potentiel.
Vous parlez du développement harmonieux. Justement, il y a des complexités, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais parfois ça peut devenir complexe, notamment aussi à l'école.
Alors tout à fait, dans le sens où l'enfant a besoin de pouvoir se reconnaître dans ce qu'il est, et s'il n'y a pas un retour qui prend en compte le haut potentiel, très souvent il va tout mettre dans sa tête, pas grand chose dans ses pieds, et là on va voir apparaître des phénomènes de dyssynchronie, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le corps et la tête. Maintenant, c'est l'objet de notre conférence. Finalement, on peut ramener le tout jusqu'au pied. Et on a une idée que finalement, peut-être qu'en travaillant le corps, on peut permettre à cet esprit de se poser, de vivre et de goûter la vie harmonieusement et joyeusement.
Alors, on parlait d'école où certains des signes peuvent apparaître. Il y a les parents qui se posent peut-être des questions depuis la naissance de leur enfant. Après, la confrontation aux autres enfants à l'école, ben, c'est souvent à ce moment-là, hein, que l'enfant HP va être détecté. Et la scolarité, même si cet enfant a un haut potentiel, c'est pas un long fleuve tranquille pour lui.
Alors non, de loin pas toujours. De nouveau, HP ne veut pas dire difficulté ou facilité, ça veut juste dire fonctionnement différent. Et à ce titre-là, le collectif essaye vraiment de travailler sur cette différence, qu'elle soit reconnue et qu'il soit apporté à l'enfant quelque chose qui lui permette de s'intégrer au sein de la classe. Maintenant, l'école n'est pas responsable des difficultés de l'enfant en tant que telle, puisqu'elle est juste le révélateur de cette différence.
Une fois détecté, qu'est-ce qui va changer pour un enfant HP ?
Bonne question. tout et rien, ça dépend finalement de l'accompagnement qu'il y aura au sein de la famille et de ce qu'on met sous ce mot reconnaissance. Qu'est-ce qu'on reconnaît ?
Le pourcentage d'enfants ou d'adultes, hein, puisque on n'est pas enfant HP pour ne plus être un adulte HP, c'est combien dans la population ? On a une idée du pourcentage ?
Alors de nouveau, officiellement 5%, mais ça c'est si on prend ce fameux chiffre de 130 de QI. Par contre, si on prend les enfants dits à double casquette, ça veut dire qu'ils ont et un potentiel et des difficultés, je pense qu'on est plus à 10-13% dans la population que 5%.
On va évoquer un petit peu les images populaires. Un enfant HP va forcément devenir un universitaire, un médecin, un scientifique, ou comment ça se passe?
Parce que qu'il peut finir animateur radio.
C'est forcément un garçon.
Justement.
Pardon, non, c'est forcément un garçon blond, frisé à lunettes et qui passe son bac à 14 ans. Il n'y a pas de doute.
Et qu'il y a des parents à haut revenu.
Exactement. Non, pas du tout. Le haut potentiel n'est pas synonyme de hautes études. Le haut potentiel est synonyme de curiosité, pour autant que l'enfant puisse rester curieux et devenir un adulte curieux. Mais ce n'est pas synonyme de hautes études.